Paul l'endormi. Johannes Brahms. La vie. La famille de Brahms est originaire de la Basse-Saxe. Le grand-père de Johannes Brahms, Johann Brahms, était hôtelier. Il mourut à 70 ans en 1839 à Heide, petite ville du Holstein. Le père de Johannes Brahms, Johann Jakob Brahms, naquit le 1er juin 1806. Dès l'enfance, il eut la passion de la musique. Il se sauva deux fois de la maison de ses parents pour suivre sa vocation. Deux fois, ses parents le ramenèrent. La troisième fois, son père céda, lui donna des vêtements, du linge et sa bénédiction, et le laissa partir. Johann Jakob réussit assez vite à se tirer d'affaire. Il n'avait du reste d'autre ambition que de devenir un musicant, un musicien ambulant. Il songeait à entrer dans une de ces Stadtpfeifereien, comme il en existait encore en Allemagne et qui tirait leur origine des corporations du Moyen-Âge. La Stadtpfeiferei était l'institution musicale officielle d'une ville et du pays environnant. Elle était dirigée par le Stadtmusikus, qui jouissait d'une foule de privilèges. Il avait notamment le monopole de l'organisation de la musique dans les réjouissances publiques. Il formait des élèves dont il composait à l'occasion ses orchestres. Il leur demandait une redevance, soit en espèces sonnantes, soit le plus souvent en travaux de toutes sortes, à la maison, au jardin, à la ferme. La plupart de ces apprentis musiciens vivaient avec leurs maîtres comme s'ils étaient de la famille. Ils apprenaient plusieurs instruments à la fois pour pouvoir s'employer utilement dans toutes les circonstances. Une fois leurs études terminées, ils recevaient un certificat avec une appréciation sur leur talent et sur leur caractère, et ils allaient chercher fortune par le monde. Johann Jakob Brahms travailla ainsi pendant 5 ans le violon, l'alto, le violoncelle, la flûte et le cor, les 3 dernières années auprès du Stadtmusikus de Wesselburen. Au commencement de 1826, muni d'un certificat où il était qualifié d'écolier fidèle, studieux, appliqué et obéissant, il partit pour Hambourg à la recherche d'une situation. Il eut la chance d'obtenir assez rapidement une place de corniste dans la musique de la milice municipale. Il gagnait bien maigrement sa vie quand il épousa, le 9 juin 1830, une vieille fille de 20 ans plus âgée que lui, ou peu s'en faut, elle avait alors 41 ans, très pauvre et de santé fort délicate, Johanna Henrika Christiania Nissen. Elle était petite, pas jolie et boitait un peu. Mais ses yeux bleus avaient une expression très douce et disaient toute la bonté d'un cœur très aimant. Les débuts du jeune ménage furent difficiles, surtout quand, l'année suivante, naquit une petite fille, Elisabeth Wilhelmine Louise. Johann Jakob venait fort heureusement d'apprendre un instrument de plus, la contrebasse, et cela lui permit d'entrer dans l'orchestre du Petit Théâtre. Le 7 mai 1833, Johanna mettait au monde un fils qui fut baptisé le 26 du même mois à l'église Saint-Michel, sous l'unique nom de Johannes. La maison où Johannes Brahms est né existe encore aujourd'hui. Elle porte le numéro 60 de la Speckstrasse. Haute maison de 5 étages, les 2 derniers dans le toit, à fenêtres juxtaposées sans interruption sur la façade, un escalier obscur conduit à une foule de petits logements. Tout un monde de pauvres gens vivait là, entassés. Les murs étroits de la vieille cité mesuraient la place à la population qui s'accumulait ainsi dans de grandes bâtisses. Jakob et Johannes habitaient au 1er étage à gauche, 3 misérables petites pièces. Johann Jakob voulait faire de son fils un musicien d'orchestre comme lui. Dès que l'enfant put tenir un instrument dans ses mains, son père commença de lui apprendre le violon et le violoncelle. Puis, quand Johannes eut 7 ans, Johann Jakob le conduisit chez le pianiste O. Kossel. « Je désire que mon fils devienne votre élève, monsieur Kossel, » lui dit-il. « Le gamin travaillera volontiers le piano, » et s'il arrive un jour à en jouer comme vous, eh bien cela suffira. » Kossel n'estima point ce résultat suffisant. Il s'aperçut bientôt qu'il avait affaire à une nature exceptionnellement douée, et quand Johannes eut 10 ans, il le présenta au célèbre Marxen d'Altona, en priant cet éminent professeur de vouloir bien se charger de l'éducation artistique de l'enfant. Après quelques hésitations, Marxen finit par y consentir. « Quel dommage, » disait Kossel, Johannes pourrait devenir un si bon pianiste, mais il ne veut pas lâcher son éternelle composition. » Et Brahms racontait plus tard, « Je composais continuellement. Je composais quand j'étais tranquille chez moi de bonne heure le matin. Le jour, j'arrangeais des marches pour des musiques de cuivre. Le soir, je jouais du piano dans les cabarets. » Auprès de Marxen, le jeune Brahms étudiait l'harmonie et la composition en même temps que le piano. La vie du petit musicien était bien pénible, toujours se coucher tard et se lever tôt. Travailler à la fois pour soi et pour les autres. Après un hiver particulièrement fatigant, il faillit tomber malade. Un amateur de musique qui connaissait son père et qui avait remarqué les admirables dispositions du fils, Adolf Giesmann, l'emmena chez lui à la campagne pour reprendre des forces au grand air. Ce furent pour Johannes de merveilleuses vacances. Il court les champs avec Lieschen, la fille du bon Giesmann, d'une année plus jeune que lui. Il avait alors 14 ans. Il passe des heures avec elle assis dans l'herbe au bord d'un ruisseau, à rêver ou à lire. Il dévore tous les livres qui lui tombent sous la main, surtout les romans d'aventure. Il ne connaît point de plus grand plaisir. C'est ainsi qu'un jour il découvre l'histoire de la belle Maguelone et du chevalier Pierre, qu'il devait plus tard illustrer de sa musique. Ici, à la campagne, la bibliothèque de son ami et protecteur est riche et bien garnie. Il ne s'est jamais vu à pareille fête. À la ville, il satisfait plus difficilement sa passion de lecture. Du moins, dès qu'il a quelques grosses chaînes dans la poche, il court chez le brocanteur pour acheter des livres. Il se monte ainsi, peu à peu, une singulière bibliothèque où voisinent Sophocle et Dante, Cicéron et Le Tasse, Pope, Jean-Paul, Klopstock, Lessing, Goethe, Schiller, Eichendorff, Chamisso, Jung et à la place d'honneur, la Bible, qu'il savait presque par cœur. Quand il rencontrait une poésie qui lui plaisait, il la lisait lentement et la mélodie venait tout naturellement se placer sur les vers. Mais Brahms n'est déjà plus un enfant. Il a 15 ans. Il faut qu'il fasse son entrée dans le monde. Il doit maintenant subvenir seul à tous ses besoins et même aider ses parents à élever son jeune frère Fritz. Le 21 septembre 1848, Brahms donne son premier concert. Au programme, parmi plusieurs morceaux brillants à la mode du temps, notons une fugue de Jean-Sébastien Bach. Le 14 avril 1849, à son deuxième concert, Brahms joue la sonate de Beethoven opus 53, la fantaisie de Thalberg sur Don Juan et des variations de sa composition sur une valse favorite. Il obtient un grand succès et déjà la critique lui reconnaît un talent peu ordinaire. Mais ce n'est là qu'un premier pas, en somme le plus facile. Pendant 4 ou 5 ans, Brahms continue de vivre modestement du produit de ses leçons, qu'il était tout fier de faire payer 1 mark, et de ses nuits passées dans les cabarets ou les bals. Il fait à cette époque des connaissances utiles, celles de la pianiste Louise Jaffa, élève de Schumann, avec laquelle il restera toujours bon camarade, et qui lui révèle quelques-unes des œuvres de son maître. Celle aussi du violoniste hongrois Remeni, qui lui fait entendre des danses populaires de son pays, premier contact de Brahms avec la musique tzigane, et il part avec lui en tournée à travers l'Allemagne du Nord, en 1853. Une tournée, grave entreprise, et dont il ne pouvait prévoir les si heureuses conséquences. Il avait alors 20 ans. C'était un jeune homme mince, avec de longs cheveux blonds, une vraie tête de Saint-Jean. Les yeux brillaient d'énergie et d'esprit. Avec cela, une apparence d'enfant, une voix claire, et dans son petit complet d'été gris, il avait un air tout à fait intéressant. Un peu plus tard, Berlioz, puis le graveur Allgeier diront que son profil ressemble, d'une façon saisissante, à celui de Schiller. En quittant la maison familiale, Brahms fit promettre à sa mère de lui écrire toutes les semaines une lettre de 4 pages. La mère promit. C'était beaucoup s'engager. La pauvre femme n'avait pas grande culture, et 4 pages par semaine représentaient pour elle un terrible travail. Elle tint cependant fidèlement sa parole, et quand elle était à bout d'invention, elle recopiait naïvement les faits divers qu'elle venait de lire dans le journal. Brahms, de son côté, ne manqua point d'envoyer régulièrement de ses nouvelles. À Hanovre, le jeune voyageur rencontre Joseph Joachim, alors âgé de 22 ans. L'année précédente, le grand violoniste avait conquis Berlin en jouant le concerto de Beethoven, et en 1853, il avait triomphé avec la même œuvre au festival du Bas-Rhin. Déjà, il avait rompu en esprit avec le cercle de Weimar et les tendances Nouvelle-Allemagne qui y régnaient. Joachim allait devenir l'un des défenseurs les plus ardents de la tradition classique. Tout de suite, Joachim remarqua en Brahms un talent de composition exceptionnel et une nature qui ne pourra se développer intégralement que dans la retraite la plus solitaire, pure comme le diamant, délicate comme la neige. Son jeu est plein de feu, d'une énergie fatale et d'une précision rythmique qui révèle l'artiste. Ses compositions contiennent plus de choses intéressantes que je n'en ai jamais rencontrées dans les œuvres d'un jeune homme de son âge. ce fut le commencement d'une longue amitié qui devait unir toute leur vie durant les deux artistes. Joachim connaissait alors de Brahms une sonate pour piano et violon en la mineur qui s'est perdue depuis, un quatuor à cordes, plusieurs lieds, et pour le piano les sonates en ut majeur et fa dièse mineur, et le scherzo en mi bémol mineur. Les manuscrits portaient comme indication d'auteur Johannes Kreisler Jr., pseudonyme choisi par Brahms en souvenir du héros d'un conte d'Hoffmann pour lequel il avait une prédilection particulière. Joachim avait recommandé Brahms à Liszt et le jeune musicien partit aussitôt pour Weimar. La rencontre ne fut pas heureuse. Liszt ne semble pas avoir accordé à ce moment grande attention aux œuvres que lui soumit Brahms et l'on raconte que celui-ci commit une terrible maladresse. Il s'endormit profondément pendant que Liszt lui jouait sa grande sonate en si mineur. Mais voici Schumann, qui, à Düsseldorf, accueille Johannes avec toute la bonté de son cœur si généreux et qui, le 23 octobre 1853, dans la Neue Zeitschrift für Musik, signale le nouveau venu à l'attention des connaisseurs. Ouvrez les guillemets. Il s'appelle Johannes Brahms. Il porte tous les signes qui annoncent l'élu. Dès qu'il s'assied au piano, il nous entraîne dans des régions merveilleuses. Saluons-le à son premier pas dans le monde, où il doit recevoir des blessures sans doute, mais aussi des lauriers et des palmes. Souhaitons la bienvenue au vaillant lutteur. Fin de la citation. Schumann était heureux de célébrer un art qui, par certains côtés, ressemblait au sien et dont les tendances ne l'effrayaient point. Son instinct lui dictait de soutenir le jeune Brahms comme l'adversaire né des entreprises d'un Berlioz, d'un Liszt ou d'un Wagner. On sait en effet que Schumann, bien que novateur à tant d'égards, restait fidèlement attaché à certaines traditions classiques qu'il voyait à regret bousculées par ses intrépides révolutionnaires. L'article eut un retentissement considérable. Mais l'excellent Schumann, dans l'élan spontané de son admiration, n'en avait pas assez prudemment calculé les conséquences. Le poids d'un pareil dithyrambe était lourd à porter pour un artiste de 20 ans, et Brahms eut à souffrir longtemps des inimitiés que Schumann, sans le vouloir, lui avait suscitées. Les moins méfiants restèrent sceptiques. Hans von Bülow écrivit à Liszt le 5 novembre 1853 « Mozart Brahms ou Schumann Brahms ne trouble point du tout la tranquillité de mon sommeil. J'attendrai ses manifestations. » Il y a une quinzaine d'années que Schumann a parlé en des termes tout à fait analogues du génie de Sterndale Bennett. Quelque temps après, il est vrai, Hans von Bülow reçut la visite de Brahms et il semble alors avoir été conquis par le jeune musicien puisqu'il lui reconnaît un don divin dans le meilleur sens. Mais Hans von Bülow était un nerveux, impressionnable à l'excès. Il ne faut pas prendre ses paroles au pied de la lettre. Le sentiment qu'elles traduisent n'a rien de très consistant. Il se modifiera suivant l'heure. En réalité, Bülow conservera longtemps des préventions contre un artiste qu'il jugea dès l'abord trop timoré, trop attaché au passé, et il écrira à Liszt en 1853 « Joachim et la statue dont il se fait le piédestal ne nous arriveront que vers le commencement du mois prochain. Je crains que nous n'ayons de la peine à nous reconnaître, car nous sommes engagés dans des chemins tout à fait opposés. » C'était l'époque où l'art wagnérien donnait lieu aux plus âpres discussions. Otto Jahn venait de faire paraître ses diatribes contre Tannhäuser et Lohengrin et partait en guerre contre la propagande par le fait organisée par Liszt à Weimar. Or justement, c'était dans la Neue Zeitschrift für Musik qu'écrivaient les partisans de Berlioz et de Wagner. Il est vrai que la plupart d'entre eux avaient d'abord observé une prudente réserve à l'égard du nouveau prophète, du jeune Brahms. Mais comme l'article de Schumann avait paru dans la même revue, pour le grand public, la cause de Brahms pouvait sembler se confondre avec celle des audacieux innovateurs prônés par Liszt et par son cercle. Du reste, à Leipzig, où il les rencontrera bientôt, Brahms reçut de Berlioz et de Liszt un accueil extrêmement chaleureux. Berlioz écrivit à Joachim le 9 décembre 1853 « Brahms a beaucoup de succès ici. Il m'a vivement impressionné l'autre jour chez Brendel avec son scherzo et son adagio. Je vous remercie de m'avoir fait connaître ce jeune audacieux si timide qui s'avise de faire de la musique nouvelle. Il souffrira beaucoup. » Brahms sentit peut-être qu'on voulait l'attirer dans une direction où, de lui-même, il ne s'était point engagé. Il comprit qu'il fallait prendre nettement position. Il hésita quelque temps encore, et l'on rencontre des traces de son indécision dans les œuvres qu'il écrivit alors, opus 4, 8, 9, 10 et même 15. Mais il finit par être effrayé du radicalisme de Liszt et de ses amis, et sans se ranger du côté des purs conservateurs, il finit par s'en tenir à un opportunisme éclectique, bien fait pour assurer la confiance de ses premiers admirateurs, et d'ailleurs en parfait accord avec les inclinations de sa nature artistique. Grâce à l'appui de Schumann, Brahms venait de faire éditer deux sonates pour piano, 6 lieds et le scherzo en mi mineur. À 20 ans, il n'était déjà plus un inconnu. En bien ou en mal, on parlait beaucoup de lui. Vraiment, il n'avait point à se plaindre du sort. La conquête du monde qu'il avait entreprise n'était pas achevée, tant s'en faut, elle commençait à peine. Mais en un an, depuis le départ de Hambourg, quel chemin parcouru! Une jeune fille remarquablement douée pour les lettres et les arts, qui le vit alors à Leipzig, Edwige Salomon, le dépeint ainsi. Hier, 4 décembre 1853, Monsieur von Sarr m'amena un jeune homme qui tenait à la main une lettre de Joachim. Il s'assit en face de moi, ce jeune héros du jour, ce messie annoncé par Schumann. Blond, d'apparence délicate, et malgré ses 20 ans, il allait très déjà bien formé, quoique pur de toute passion. Pureté, innocence, naturelle, force et profondeur, voilà tout son être. Et avec toute cette libre énergie, une petite voix qui n'a pas encore mué, et un visage d'enfant qu'une jeune fille pourrait embrasser sans rougir. Ce fut un coup terrible pour Brahms, lorsqu'il apprit que dans un accès de folie, Schumann s'était jeté dans le Rhin, le 27 février 1854. Aussitôt, il partit pour Düsseldorf, afin d'être plus près de ses amis si cruellement éprouvés. Il rendait souvent visite à Clara Schumann, et aussi au pauvre malade, tout joyeux lorsqu'il apercevait son Johannes, et presque toujours apaisé par sa présence. Les deux tristes années qui s'écoulèrent alors jusqu'à la mort de Schumann, en juillet 1856, furent pour Brahms l'occasion de sérieuses méditations sur la vie et sur l'art. Sans fréquent contact avec le public pendant ce temps, il prit l'habitude de s'observer lui-même et de soumettre ses ouvrages à une sévère critique. Il est à remarquer que de 1854 à 1860, c'est-à-dire pendant 6 années, Brahms ne publia qu'une seule œuvre, les Ballades pour piano, opus 10. Il se recueillait. Il s'était imposé un sévère programme d'études. Il voulait que son ami Joachim le suivît comme lui. Ils avaient tous deux prévu un système d'amende en cas d'infraction au règlement. Le produit en devait être affecté à l'achat de livres. Pendant quelque temps, les deux amis travaillèrent ainsi en commun. Joachim se lassa vite. Brahms continua seul. Il compléta les fortes études qu'il avait commencées avec Marxen. Cet excellent maître lui avait surtout appris à développer un thème à la façon beethovenienne. Mais il accordait peu d'importance aux exercices de contrepoint. Brahms sentit ce qui lui manquait encore à cet égard. Il voulut acquérir l'art de conduire avec souplesse et sûreté plusieurs parties en style sévère. Il se procura des chorales à 4 voix de Philippe Emmanuel Bach, l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, un volume des œuvres de Roland de Lassus, la messe du pape Marcel de Palestrina, et il se mit à composer lui-même des chants pour la messe à 4 et 6 voix. Peu de musiciens à cette époque furent aussi instruits que Brahms du développement historique de leur art et des formes anciennes de la polyphonie. Cependant, parfois Brahms quittait son travail pour aller donner quelques concerts avec Joachim. Mais il revenait bientôt à ses études et, pendant la maladie de Schumann, il vécut le plus souvent à Düsseldorf. C'est alors que se forma, entre Clara Schumann et Brahms, cette intimité d'un caractère si particulier, qui devait désormais jouer un rôle prépondérant dans la vie sentimentale du compositeur. Ouvrez les guillemets. Dieu envoie à chacun, quelque malheureux qu'il soit, une consolation, et nous devons nous en réjouir, disait plus tard Clara à ses enfants. Je vous avais bien alors, mais vous étiez encore petit, vous ne connaissiez qu'à peine votre père bien-aimé, vous étiez encore trop jeune pour ressentir de profondes douleurs. Vous ne pouviez, dans les années terribles, m'apporter aucune consolation. Des espérances, oui, mais cela ne servait guère en de pareils moments. Johannes Brahms vint. Votre père l'aimait et l'estimait comme aucun homme au monde, excepté Joachim. Il vint en ami fidèle partager mon malheur, il fortifia mon cœur qui menaçait d'éclater, il éleva mon esprit, rasséréna mon âme comme il put, bref, il fut un ami dans le sens le plus complet du mot. Lui et Joachim furent les seules personnes que vit votre père durant sa maladie. Il les reçut toujours avec une joie manifeste, aussi longtemps que son esprit fut lucide. Joachim fut pour lui un ami fidèle, mais je ne vivais pas sans cesse avec lui. Ce fut donc Brahms seul qui me soutint. Je considère comme un devoir de vous dire cela. Ne l'oubliez jamais, pas plus que la reconnaissance que vous lui devez au nom de votre mère. Fermez les guillemets. En 1854, Brahms avait 21 ans. Clara Schumann en avait 35. Quelle fut exactement la nature des relations qui s'établirent entre eux, c'est un point qui reste, comme toujours en pareille matière, assez mystérieux. On a fait toutes les suppositions. Il y en a d'absolument invérifiables que nous renonçons à examiner. Du fait matériel d'une liaison non platonique, qu'elle ait été passagère ou durable, on ne peut rien savoir en l'absence d'un aveu explicite. Dans cet ordre de choses, tout est possible, même l'invraisemblable, même l'absurde. Combien tout de même il serait singulier que ce timide et cette rêveuse se fussent unis autrement qu'en pensée. Mais de leurs sentiments même, on peut discuter. Rien n'est moins clair que leur cas. À ne considérer que le langage de Brahms dans sa correspondance avec Clara, il semblerait difficile de nier qu'il éprouvait pour elle l'amour le plus ardent, le plus passionné. « Prenez mes lettres, lui dit-il, comme les plus discrètes caresses de mon âme. Je vous aime trop pour pouvoir vous l'écrire. Comme tout est vide et désert quand vous n'êtes pas là, je pense sans cesse à vous avec le sentiment du plus brûlant amour, que je serais malheureux si je ne vous avais pas. » Et passant au tutoiement, du reste beaucoup moins significatif en Allemagne qu'en France, « Je voudrais pouvoir t'écrire très délicatement combien je t'aime, et je t'aime tant que je ne puis le dire, toi mon amour, toi ma divine Clara. » Mais n'exagérons rien, les différentes nuances de l'amour, de l'amitié, de l'affection ne sont pas aussi exactement marquées par les mots en Allemagne qu'en France. Et ces sentiments divers se mélangent aussi et se confondent plus volontiers dans l'âme d'un Allemand que dans celle d'un Français. Si l'amitié amoureuse a un pays d'origine, ce doit être celui de Brahms. Jusqu'à nos émotions, nous prétendons, nous Français, tout classer et définir avec précision, et ces ambiguïtés nous déplaisent. Nous voulons toujours savoir où notre cœur nous mène. Qu'importe à une âme de Germain, son rêve a besoin de ses indécisions. Et puis Brahms est un artiste, et il écrit à une autre artiste. En pareil cas, une certaine exaltation du sentiment et de rigueur. Soyons assurés que Brahms n'hésitera pas à user d'expressions exagérées ou même qui déplacent la vérité pour donner plus d'allure à son style et en même temps pour complaire à son ami en fournissant un aliment à ce besoin confus de tendresse et d'idéal qu'elle a si souvent manifesté devant lui. Malgré la netteté apparente de ses déclarations, je ne suis pas convaincu que Brahms ait surtout aimé d'amour cette Clara Schumann, pour laquelle il éprouva sans aucun doute l'affection la plus profonde de sa vie. Il me semble que cet homme si réservé, ce craintif et ce farouche indépendant n'eût jamais osé avouer un sentiment de cette nature s'il l'avait ressenti vraiment dans toute sa violence. Il eût mis peut-être quelque pudeur aussi à briguer la place de son ami et protecteur vénéré dans le cœur d'une femme qu'il savait si fidèle à la mémoire du grand homme. Enfin, plus tard, aurait-il aussi effrontément rapproché les noms de Robert et de Clara Schumann dans cette exclamation « Ouvrez les guillemets, toi et ton mari fûtes les plus belles expériences de ma vie, sa plus grande richesse, sa plus noble signification. » Fermez les guillemets. Brahms éprouva d'abord pour Clara Schumann une grande reconnaissance de l'avoir si généreusement soutenue à ses débuts dans la vie artistique. Puis il l'admira comme musicienne, comme pianiste, comme interprète de ses œuvres. Il fut touché de son malheur et de son dévouement au pauvre fou qu'était devenu son génial mari. Il apprécia ses talents de ménagère, son esprit pratique dans l'organisation d'une vie difficile et dans l'éducation de 7 enfants sans père. Elle devint à ses yeux la femme idéale, celle peut-être qu'il aurait voulu rencontrer libre et qu'il aurait alors épousée avec joie, mais si elle avait eu 15 ou 20 années de moins. Elle fut pour lui celle dont il aurait voulu et qu'il ne pouvait plus vouloir, celle dont l'image s'interposa pour des comparaisons fâcheuses toutes les fois qu'il fut sur le point d'aimer d'autres femmes, celle qui l'empêcha d'aimer, mais qu'il n'aima point de cet amour où le désir commande. Il lui donna son cœur et lui voua un culte, mais en poète, qui ne s'attache à une réalité que comme à un symbole de ses aspirations. Elle fut certainement sa muse, et c'est le rôle le plus incontestable qu'elle joua dans sa vie. Ouvrez les guillemets. « Je mets ces jours-ci honnêtes, écrit-il, le premier mouvement de mon concerto, opus 15, et je fais un tendre portrait de toi qui sera l'adagio. Sous mes meilleures mélodies, je devrais écrire... de Clara Schumann. » Fermez les guillemets. Pour ce qui est de Clara elle-même, c'est une femme à la fois positive et extrêmement sentimentale, de cette sentimentalité vague qui se prend elle-même pour objet. Elle estime en Brahms un ami sûr et dévoué, qui lui a rendu, à l'époque la plus troublée de sa vie, les plus délicats services. Elle trouve de plus auprès de lui l'occasion de rêver, de s'émouvoir, de dire des mots tendres, de parler de son âme et de sa soif d'idéal. Ses épanchements du cœur lui sont absolument nécessaires et l'occupe beaucoup plus que l'homme à qui elle se confie. Il la repose de ses soucis domestiques, de ses affaires, de ses tournées de concerts. Elle ne néglige point pour autant ses intérêts pratiques, c'est une femme de tête et d'ordre. Ses succès de pianiste lui rapportent d'importants bénéfices, elle sait les préparer. Elle ne sacrifiera jamais une recette assurée, ni non plus les applaudissements du public, à une question de sentiment. En 1872, elle apprendra la mort de sa fille Julie, au moment de donner un concert à Heidelberg. Elle jouera, tout de même, et sans rien dire aux autres artistes, de peur de les troubler. Mais les affaires terminées, elle écrira à Brahms « Puisse le beau printemps, puisse les rossignols chanter sous ta fenêtre et t'inspirer de magnifiques mélodies. Pense à moi parfois, à moi qui reste ta fidèle Clara. » En réalité, elle n'a aimé profondément que son mari, et pour lui, elle a eu tous les dévouements. Elle lui a sacrifié jusqu'à son travail, jusqu'à son piano, jusqu'à ses succès, quand il fallait qu'il eût le silence pour composer. Elle ne l'oubliera jamais, jusqu'au bout elle lui restera fidèle. En Brahms même, c'est quelque chose de son souvenir qu'elle retrouve. Son affection pour le jeune artiste est autant d'une mère que d'une amie. « Je l'aime comme un fils, » dit-elle. Elle voudrait le marier, elle sent qu'il a besoin d'un foyer. Elle le lui dit en 1862. « Tu es jeune encore, tu trouveras ton repos. » Tu te marieras, tu trouveras ton bonheur. » Elle revient souvent sur ce sujet. Prends donc une jeune et jolie femme avec un peu d'argent, ce serait délicieux. Vraiment, si l'amitié de Clara Schumann pour Brahms fut quelque peu teintée d'amour, c'est d'amour bien pâle et bien peu exigeant. À la mort de Schumann, le 29 juillet 1856, les artistes qui s'étaient réunis autour de lui à Düsseldorf se séparèrent. Dietrich partit pour Bonn, Joachim pour Hanovre, Grimm pour Göttingen, et tandis que Clara Schumann, après un court séjour en Suisse, se fixait à Berlin, Brahms acceptait les fonctions de professeur de musique de la cour et de directeur de la société de chant à Detmold. Il resta ainsi 2 ans au service du prince de Lippe. C'est ici que se place pour la première fois dans la jeunesse de Brahms une véritable histoire d'amour. Pendant un séjour qu'il fit auprès de son ami Grimm à Göttingen, Brahms connut une jeune fille, Agathe de Siebold, dont le père était professeur à l'université. Agathe était jolie, vive, intelligente, instruite, douée d'une voix agréable, et elle chantait les lieds de Brahms avec beaucoup d'expression, et surtout quand elle était accompagnée par l'auteur. Pendant 2 mois d'été, les deux jeunes gens, Brahms avait alors 24 ans, se virent continuellement. L'automne venu, ils se séparèrent et commencèrent à correspondre ensemble. Brahms composa pour Agathe quelques lieds et un chant de fiançailles, plus tard détruit, pour soprano solo, chœur de femme et orchestre, sur un poème de Uhland. Au jour de l'an, Brahms vint pour une semaine à Göttingen, revit Agathe, et déjà le bruit se répandait que les fiançailles se feraient bientôt. Mais Brahms ne se déclarait toujours pas d'une façon nette. Grimm intervint alors et advertit son ami qu'il devenait nécessaire de prendre un parti. Brahms n'était pas riche. Il songea sans doute qu'en se mariant si jeune, il compromettait son avenir de musicien. Il n'hésita point et battit promptement en retraite. Avec un peu plus d'argent, eût-il épousé Agathe? C'est fort peu probable. Brahms aimait trop son indépendance. Ce n'est point qu'il ait rompu avec Agathe sans regret, sa décision lui coûta quelques peines. Il n'oublia point celle qu'il avait réellement aimée de tout l'amour dont il était capable. C'est en pensant à elle qu'il écrira plusieurs de ses lieds les mieux inspirés, notamment le fameux « Amour éternel », Edwige Liebe, opus 43, numéro 1, dont la dernière phrase en si majeur est une réminiscence d'un thème du chant de fiançailles, et, touchante mais un peu puérile allusion, dans le sextuor en sol majeur, la seconde idée du premier mouvement sera construite sur les notes la, sol, la, si, mi. En allemand, A, G, A, H, E, qui rappelle le nom de la bien-aimée. Ne plaignons point Agathe, Brahms eût été vraisemblablement un fort médiocre mari. Du reste, après quelques fâcheuses aventures, elle finit par épouser un brave homme qui, dit-on, la rendit très heureuse. Cependant, Brahms venait de composer et de faire exécuter le concerto en ré mineur pour piano, et le trio en si majeur pour piano et instruments à cordes, œuvre très importante dont il sentait toute la valeur et qui ne trouvèrent auprès du public, et même de la plupart des artistes, qu'un accueil des plus froids. Il semble que ce double échec ait vivement affecté Brahms et qu'il l'ait amené à s'éloigner de plus en plus des voies suivies par les révolutionnaires de Weimar. Le concerto en ré mineur et le trio en si majeur trahissent en effet, sinon dans le détail de l'écriture, au moins dans l'allure générale, dans le ton du discours musical, dans l'exaltation des sentiments exprimés, l'influence de Liszt et de ses amis. Brahms croit sans doute s'apercevoir alors qu'il n'est point né pour les grandes passions ou les grandes fantaisies romantiques et le désordre apparent de leurs manifestations. Il se reprend, il précise et condense son inspiration. Il l'enferme dans des formes de plus en plus nettement déterminées. C'est la fin pour lui de la période de Sturm und Drang qu'il a d'abord traversée. C'est la fin de sa première jeunesse. À 25 ans, Brahms est presque devenu un sage. Après 2 années passées à Detmold, Brahms trouva que la vie de cour ne lui laissait pas assez de loisirs pour composer, et il revint dans sa ville natale, où il demeura de 1859 à 1861. Un de ses amis et admirateurs, le musicien hambourgeois Theodor A.V. Lallemand, s'était mis en tête en 1861 de le faire nommer chef d'orchestre de la Société Philharmonique de Hambourg. Mais il n'y réussit point. Stockhausen, l'illustre chanteur, fut élu. Brahms, un peu dépité, prit le parti d'aller chercher fortune à Vienne. En novembre 1862, Brahms écrit à son ami Grimm « M'y voici, j'y suis installé à 2 pas du Prater et je puis boire mon vin où Beethoven a bu le sien. » Et il donne son adresse « Jägerzeil, Novaragasse, 39-2. » Brahms se trouva tout de suite chez lui, à Vienne, et tout de suite le Prater lui plut infiniment avec son animation si diverse. Il y flânait pendant des heures entières. Cependant, il n'oubliait point sa patrie. Il l'aima toujours d'un amour fidèle et il y eut bien volontiers accepté quelques situations officielles. Ses concitoyens ne lui offrirent jamais la direction d'aucune société musicale. Ce fut une grosse déception pour Brahms. Il souffrit de ce dédain. L'estime des gens de son pays lui eût été plus précieuse que toute marque d'approbation venue d'ailleurs. Il espéra longtemps être rappelé à Hambourg. Il se lassa d'attendre. Mais il ne se résigna jamais complètement et ce n'est qu'à son corps défendant qu'il finit par s'établir définitivement à Vienne. Les programmes avec lesquels il se fit connaître dans la ville de Mozart, de Beethoven et de Schubert comprenaient la fantaisie chromatique de Jean-Sébastien Bach, les variations en mi bémol opus 35 de Beethoven, la fantaisie en ut majeur opus 17 et le concerto sans orchestre opus 14 de Schumann. Et parmi ses propres œuvres, Brahms choisit pour les exécuter lui-même le quatuor avec piano en la mineur opus 26, les variations sur un thème de Handel opus 24 et la sonate en fa mineur opus 5. Il trouva également l'occasion de faire jouer son quatuor en sol mineur opus 25 et son sextuor opus 18, ce dernier le soir même du jour où, dans l'après-midi, Wagner avait conduit des fragments de la tétralogie et de Tristan. Cela sonna comme une délivrance, écrit dans ses mémoires le trop partial Hanslick. Le succès de Brahms fut assez grand pour qu'on lui offrit presque immédiatement la direction du chœur de la Singakademie. Brahms, qui était reparti à Hambourg pour son anniversaire de naissance, le 7 mai 1863, revint à Vienne en août pour prendre possession de ses nouvelles fonctions. Il ne les conserva qu'une année, mais dans ce court espace de temps, il eut l'occasion de manifester d'une façon très précise ses prédilections artistiques. Le programme de son premier concert était ainsi composé, une cantate de Bach, Ich hatte viel Bekümmernis, l'Opferlied de Beethoven, quatre lieds populaires de Heinrich Isaac, 16e siècle, et le Requiem pour Mignon de Schumann. Par la suite, il monta surtout des œuvres de Bach, de Handel, de Beethoven, de Schumann, et aussi des maîtres plus anciens tels que Giovanni Gabrieli, Eckhart, Schütz, etc. En juillet 1864, Brahms donnait sa démission, voulant sans doute se réserver plus de loisirs pour composer, mais désirant aussi conserver l'indépendance nécessaire pour voyager à sa fantaisie. C'était son grand plaisir. Le voilà parti pour Baden-Baden, où il retrouve Clara Schumann. De là, il se rend en Suisse. Il séjourne à Winterthur, chez le compositeur Kirchner. Il passe l'hiver de 1865-1866 à Karlsruhe, où il se rencontre avec Hermann Levy et le graveur Allgeier. En avril 1866, il se retrouve à Zurich, avec Kirchner, avec le pianiste Gottfried Keller, avec Bill Roth, le fameux chirurgien, dont l'amitié lui devint de plus en plus précieuse. Après un voyage à travers la Suisse, il revint à Zurich où il passe tout l'hiver. C'est là qu'il écrivit la plus grande partie du Requiem allemand, sous l'impression encore toute récente de la mort de sa mère. Il avait eu la douleur de la perdre en février 1865. Depuis 1864, la mère de Brahms, la vieille Johanna, s'était séparée de son mari. Son fils lui-même le lui avait conseillé. La différence d'âge et d'humeur avait rendu intolérable la vie commune entre les deux époux. Ce ne fut pas sans chagrin que Brahms crut devoir intervenir pour faire cesser une situation déplorable. Johanna survécut peu à des émotions trop fortes pour sa nature si impressionnable. Quelques mois plus tard, elle succombait des suites d'une attaque. Brahms accourut alors immédiatement à Hambourg. Il allait chercher son père, l'amener près du lit où reposait le corps de celle qui n'était plus et, unissant la main du vivant et celle de la morte, il exigeait cette suprême mais illusoire réconciliation. À ce moment, Brahms eut très vivement l'impression de sa solitude morale. Ouvrez les guillemets. « Je n'ai plus de mère, il faut me marier », disait-il. Il regretta d'avoir laissé trop vite échapper l'occasion qui s'était présentée quelques années plus tôt. Qu'était devenue Agathe? La pauvre jeune fille avait perdu son père et, restée sans ressources, elle avait été obligée de s'expatrier, d'accepter une place d'institutrice en Irlande. Dans les lettres de Brahms à Grimm, quelques mots mélancoliques évoquent le souvenir du bonheur entrevu et manqué. Brahms reprend ses voyages, et voici bientôt une grave nouvelle. Son père songe à se remarier avec une certaine Caroline Schnack, âgée de 41 ans, deux fois veuve déjà et mère d'un garçon de 16 ans. Johannes, très ému, revient en hâte à Hambourg. Il voit la veuve. Elle a bon visage, elle est active et prudente ménagère. Elle rendra le vieux Johann Jakob heureux. Elle l'a déjà conquis par ses talents de cuisinière. C'est une maîtresse-femme qui, pour le bien commun, prendra les rênes du gouvernement domestique et ne les laissera pas flotter entre les mains un peu molles de son mari. Voilà le foyer familial reconstitué. Johannes donne une pleine approbation au projet de son père et le mariage de Johann Jakob avec Caroline Schnack est célébré en mars 1866, un an après la mort de la pauvre Johanna. Brahms fait un beau cadeau au nouveau marié. Il adopte joyeusement sa nouvelle mère et son nouveau frère, le second Fritz, comme il l'appelait. Maintenant, quand il reviendra à Hambourg, il aura son chez-soi familial. Il oublie son souci, il s'apaise, il est presque heureux. Et puis il y avait une autre famille, où Brahms était toujours reçu comme l'enfant de la maison, où il retrouvait les soins, les attentions et la tendresse dont il éprouvait impérieusement le besoin. Jamais il n'avait cessé de rendre régulièrement visite, tous les ans, à sa vieille amie Clara Schumann. Malheureusement, vers 1866, les relations des deux artistes, sans être interrompues par aucun malentendu profond, changèrent quelque peu de caractère. Les filles de Clara, en grandissant, avaient pris sans doute quelque ombrage de l'affectueuse confiance que leur mère accordait à Brahms. Elles voulurent être les seules conseillères écoutées, et Clara Schumann subit, sans s'en apercevoir, leur influence. Brahms, de son côté, avec les années et le succès, avait perdu de sa première timidité. Il imposait davantage son amitié et aussi ses manières un peu rudes. Maintenant, ses grosses plaisanteries, ses manies, son sans-gêne agaçaient parfois Clara Schumann. D'autre part, Brahms, qui voyait l'illustre pianiste se fatiguer en d'interminables tournées de concerts, se préoccupait de sa santé, alors très ébranlée, mais il ne sut pas lui faire accepter, en usant des précautions indispensables, l'idée d'un repos utile. Au début de 1868, il lui écrivit une lettre assez maladroite, dont elle fut certainement vexée. Une artiste si fêtée ne pouvait accepter sans chagrin, sinon sans révolte, l'idée de ne plus jamais paraître en public et de renoncer prématurément à une carrière des plus brillantes. Clara Schumann n'avait pas encore 50 ans. En lui présentant trop brutalement ce remède radical à une situation inquiétante dont il exagérait la gravité, Brahms avait manqué de tact. Ajoutons que Brahms, qui fut toujours d'une humeur très lunatique, avait alors des raisons particulières de se montrer bourru, grognon, irritable, en fin de compte fort déplaisant de toute manière. Ne s'était-il pas épris des charmes, fort séduisants paraît-il, de Julie, la troisième fille de Clara, âgée alors de 23 ans, celle même à qui il avait dédié quand elle avait 16 ans ses variations à quatre mains sur un thème de Schumann? La jeune fille, qui devina ses sentiments, ne les encourageait point, et lui-même se rendit compte qu'il rêvait d'une union irréalisable. Il n'en souffrait pas moins. Quant à Clara Schumann, elle ne semble pas s'être inquiétée autrement de ce qu'elle considérait comme une fantaisie sans conséquence. Elle dut cependant éprouver quelque peine à sentir que quelque chose des admirations et de la tendresse de son cher Johannes lui était enlevé, ou du moins se partageait désormais entre la vieille amie et la jeunesse triomphante de sa fille. Vers le milieu de juillet 1869, Brahms apprit de Clara Schumann elle-même la nouvelle que Julie était fiancée au comte Victor Radicati di Marmorito. Il paraissait, raconta Clara, ne s'y être point attendu et resta tout interloqué. Clara ne se montra-t-elle point par dépit un peu cruel? Quoi qu'il en soit, ce fut une grande émotion pour Brahms et il mit du temps à s'en remettre. Cette déception fortifia son pessimisme à l'égard des femmes dont il avait toujours redouté l'abord et qu'il ne savait pas manier et, longtemps encore, elle projeta sur son amitié pour Clara Schumann une ombre qu'il s'efforçait loyalement d'effacer. Le 11 mai 1872, Brahms perdit son père. Dès lors, il reporta sur sa belle-mère les attentions qu'il avait eues jusque-là pour ses parents. Il pourvut à ses besoins et à ceux de son fils, l'autre Fritz, et de temps en temps, il passait quelques jours auprès d'elle. Quand, plus tard, il reviendra diriger certaines de ses œuvres à Hambourg, il ne manquera jamais d'assister à la répétition ou au concert avec Madame Caroline et de lui offrir le bras pour la conduire à sa place, faisant dans la salle une entrée qui ne lui déplaisait pas de rendre un peu solennelle. En mai 1867, Billroth avait été appelé à Vienne comme professeur et premier directeur de l'Institut de chirurgie. Brahms avait bientôt rejoint son ami. Cette année même, la direction de la Société philharmonique de Hambourg était devenue vacante par le départ de Stockhausen et, encore une fois, il n'avait point songé à Brahms. Le souvenir de cette nouvelle déconvenue fut certainement pour quelque chose dans la résolution que prit notre compositeur, en 1872, de se fixer à Vienne pour le reste de ses jours. Il y vécut heureux, entouré d'un petit groupe de fidèles, Hanslick, Goldmark, Brühl, Notbohl, Mandischewski, Kalbeck. Depuis les premières exécutions du Requiem allemand en 1868, sa réputation était devenue universelle en Allemagne. Son nom était presque populaire. De 1871 à 1874, il conduisit les concerts de la Société des Amis de la Musique. En 1877, il reçut de l'Université de Cambridge et en 1881 de l'Université de Breslau le titre de docteur honoris causa. En 1886, le gouvernement prussien le nomma chevalier de l'ordre pour le mérite et membre de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. Et en 1889, sa ville natale, s'apercevant enfin de l'injustice dont elle avait fait preuve à son égard, lui offrit la bourgeoisie d'honneur. En 1896, il devait figurer sous la liste des associés étrangers de notre Académie des Beaux-Arts. Au printemps, Brahms quittait souvent Vienne pour l'Italie. Pendant des années, il passa l'été en Suisse. Plus tard, ce fut dans une cure d'air très aimée des Viennois, à Eichel. À partir de 1881, il alla tous les ans passer quelques jours à Meiningen, invité par Hans von Bülow, qui était devenu son grand admirateur, et reçu avec toutes sortes d'égards à la cour ducale. Ce Hans von Bülow, qui en 1867 écrivait en parlant des œuvres de Brahms « Pour moi ce n'est pas de la musique » et encore « Que m'importe les BR, Brahms, Bramuller, Brambach, Bruch, Bragiel, Breinecke, Britz, ne parlons plus d'eux, le seul qui m'intéresse est Braff. » Le même Hans von Bülow, en quête sans doute d'une nouvelle religion artistique depuis sa rupture avec Wagner, avait fini par jeter son dévolu sur Brahms. Bach, Beethoven et Brahms. Tel était le mot d'ordre, le cri de ralliement, et les musiciens de la chapelle ducale sous la conduite de leur remarquable chef menaient ardemment la lutte à travers l'Allemagne. Les concertos de Brahms, ses symphonies, ses ouvertures et ses variations sur un thème de Haydn formèrent la partie la plus importante du répertoire de concerts de Bülow et de ses Meininger. Un jour, Bülow n'hésita point à libeller ainsi un programme. Concert d'abonnement du 3 février 1884, première partie, troisième symphonie de Johannes Brahms, deuxième partie, seconde audition de la troisième symphonie de Johannes Brahms. Et il fit en effet exécuter l'œuvre deux fois de suite. Brahms connut alors la popularité véritable. Il l'avait longtemps attendue, elle le grisa un peu. Ce n'était plus le jeune Brahms si timide, si réservé, ou du moins la timidité du Brahms d'aujourd'hui se manifestait d'une autre manière, par l'exagération de la confiance en soi, ou plutôt des gestes, des paroles, des attitudes qu'il exprime. Maintenant, quand il entrait au milieu d'une assemblée d'artistes, Brahms avait l'allure sans façon d'un homme qui brutalement impose sa supériorité, d'un homme qui sent toute la force de ce fait indéniable, une renommée positive, que cette idée n'abandonne point un seul instant et qui n'a pas la politesse d'attendre que les autres s'en souviennent. Quelle que pût être parfois la mélancolie de ses pensées intimes, Brahms fut de ceux qui acceptent la vie sans révolte. Lorsque, en 1896, il se sentit atteint d'un mal qui devait être incurable, il sembla tout d'abord ne rien perdre de son entrain et de sa bonne humeur. Du moins, il lutta jusqu'au bout pour conserver la confiance en sa belle santé. Une chose qui, chez Brahms, m'enchante autant que sa bonne humeur, disait Hanslick 3 années plus tôt, c'est son étonnante santé. À 60 ans, il ne se souvient pas d'avoir été une seule fois malade dans toute sa vie, Il marche comme un étudiant et dort comme un enfant. » Et Widmann raconte que lorsqu'il le recevait chez lui, c'était certes une joie pour tous, mais aussi une fatigue, car son étonnante vitalité, physique et morale, finissait par surmener tout le monde autour de lui. Dès l'aube, il fallait l'accompagner dans de longues courses à travers la campagne, après quoi c'était les séances de musique, les repas, les visites, de nouveau la promenade, puis le soir les causeries interminables, les discussions, les projets, les enthousiasmes, les plaisanteries, tout cela jusqu'assez tard dans la nuit, et après avoir dormi quelques heures, n'importe où, n'importe comment, au besoin sur un sofa, Brahms était prêt à recommencer, et il réveillait ses amis de bon matin pour une nouvelle journée aussi bien remplie que la précédente. Sa belle santé. Elle lui avait permis jusqu'alors de repousser les images de la mort toutes les fois qu'elle se présentait à son esprit sous une forme trop impressionnante. Il avait pleuré les parents ou les amis perdus sans trop faire retour sur lui-même, sans penser à sa propre fin. Il avait vécu jusqu'à 60 ans comme un enfant, ou du moins comme un homme jeune et plein de vie, pour qui l'idée de mort n'a point encore de sens. Cette bienheureuse ignorance, il va chercher, malgré les défaillances du corps, malgré le mal qui ruine visiblement l'organisme, à la prolonger encore. Il se raidira contre les premières atteintes de l'ennemi, il cherchera à s'étourdir. Il multipliera ses sorties, ses visites aux amis, ses dîners en joyeuse compagnie. Plus que jamais on le verra au théâtre, au concert, dans tous les lieux où le bruit, les lumières, le mouvement peuvent le divertir et chasser la crainte qu'il ne veut s'avouer. Un jour, enfin, il est bien forcé de reconnaître qu'il est malade et de consulter. Il passait alors l'été à Ischl. Le médecin diagnostique une maladie de foie et l'envoie se faire soigner à Karlsbad. Bien que fort souffrant déjà, Brahms écrit en septembre à Hanslick : « Je suis reconnaissant à mon mal de m'avoir fait connaître enfin le célèbre Karlsbad. J'ai le bonheur de jouir ici d'un temps magnifique, comme si nous ne l'avions pas eu déjà tout l'été. Avec cela, j'habite une charmante demeure, et je m'y trouve avec les gens les plus aimables. » Le mal, cependant, augmentait. Quand Brahms revint à Vienne, les médecins se prononcèrent définitivement. C'était un cancer. Brahms était perdu, lui seul l'ignorait encore. Il voulut continuer ses promenades quotidiennes, mais sa démarche devenait très pénible. Il ne put bientôt plus sortir qu'en voiture. Il se sentait maintenant bien mal et avait de terribles pressentiments. Il assista, le 2 janvier 1897, au concert du quatuor Joachim, où son quintette en sol majeur fut exécuté avec un succès extraordinaire. Il se montra le 7 mars au concert philharmonique. Il n'était déjà plus que l'ombre de lui-même. On commençait, raconte Hanslick, par la symphonie de Brahms en mi mineur. Aussitôt après le premier morceau, ce fut une telle tempête d'applaudissements que Brahms dut paraître au bord de la loge directoriale et saluer le public. L'ovation se renouvela après chacun des 4 mouvements, et après le final, elle menaça de s'éterniser. Un sentiment de profond respect et de douloureuse sympathie avait envahi l'assemblée entière, et nous avions tous l'impression très nette que dans cette salle, nous applaudissions pour la première fois le pauvre maître aimé. Peu de temps après, Brahms dut renoncer complètement à sortir de chez lui. Ses jambes ne pouvaient plus le porter. Les médecins faisaient tout pour éviter de ravir à leur malade l'espoir de la guérison. 4 jours avant sa mort, il écrivit encore courageusement à sa belle-mère sur une carte, au crayon : « Chère mère, j'ai dû me recoucher un peu et, à cause de cela, je n'écris pas facilement. Mais n'aie aucune inquiétude, il n'y a rien de changé et, comme d'habitude, j'ai seulement besoin de patience. » Le 2 avril, il perdit toute conscience et le lendemain, à 9h03 du matin, il s'éteignit doucement. Théodore Billroth, Hans von Bülow et Clara Schumann, 3 de ses amis les plus chers et de ceux qui avaient le mieux compris son art, l'avaient précédé de peu de temps dans la tombe. 3 jours après sa mort, le 6 avril 1897, Brahms fut enseveli à côté de Beethoven et non loin de Schubert, dans le bosquet des artistes.